France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
C'est un phénomène pour le moins tendance. La publicité, les réseaux sociaux ont fait des compléments alimentaires des produits très consommés dans notre pays. 61% des Français en consommaient en 2024 contre 46% en 2018. Résultat, en 10 ans, les ventes de ces produits ont bondi de 1 milliard d'euros à plus de 2,5 milliards, ce qui place la France sur le podium des plus gros consommateurs dans l'Union européenne, derrière l'Italie et l'Allemagne. Parce que ces produits sont naturels et souvent certifiés bio, les consommateurs considèrent comme sans danger et les utilisent avant tout pour calmer leurs douleurs, renforcer leur système immunitaire, améliorer leur sommeil ou l'état de leur peau ou encore réguler leur stress. Le problème, c'est que certains de ces compléments peuvent se révéler dangereux quand ils sont mal utilisés et beaucoup sont inutiles. Alors lesquels peuvent être intéressants? Dans quelles circonstances? Comment éviter les pièges? Quelle différence avec des médicaments? Toutes les réponses avec Aymeric Dopter. Aymeric Dopter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors, pour commencer, revenons sur ces chiffres. Il faut bien dire que cette hausse n'est pas récente. Il y a une étude qui montrait en 2015 un doublement de la consommation en 10 ans, donc par rapport à 2005. Depuis quand, en fait, ces compléments sont sur le marché ?
Alors, officiellement, ces compléments sont entrés sur le marché à partir de 2006, date de la transposition de la directive de 2002. Mais véritablement, ils ont commencé à être consommés il y a bien longtemps. Pour tout dire, en fait, l'idée selon laquelle l'alimentation est en interaction directe avec la santé, remonterait à Hippocrate. On lui attribue...
Beaucoup de choses.
Oui, on lui attribue beaucoup de choses, et notamment, à tort, une phrase qui est « que ton alimentation soit ta médecine ». Il semble qu'en fait, il n'ait jamais prononcé cette phrase, mais il avait pu véritablement mis en relation la nécessité d'adapter l'alimentation à l'état de santé des patients. Et par la suite, effectivement, on s'est rendu compte que il y avait un lien direct entre la consommation, par exemple, de fruits et le scorbut. C'est ce qui s'est notamment dans les expéditions maritimes. Et enfin, c'est en 1968 que Linus Pauling, le prix Nobel de chimie, a inventé une notion de médecine orthomoléculaire qui signifie plus simplement que en fait on peut prévenir certaines maladies en réajustant l'alimentation en lui apportant des nutriments qui conviennent. Donc là, toute la logique des compléments alimentaires s'est construite là-dessus et quand on voit l'augmentation des publications qui concernant les compléments alimentaires, rien qu'avec le titre Food Supplement, on voit qu'à partir des années 2000, il y a une véritable explosion. Ce qui a conduit notamment l'Union européenne à faire cette directive pour les réglementer.
Alors, déjà de quoi on parle ? C'est quoi un complément alimentaire ?
Alors, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires, avant tout, qui ont pour but de compléter un régime alimentaire normal. Donc, ce sont des sources concentrées de nutriments ou de substances dites à but nutritionnel ou physiologique qui vont être apportées dans cet objectif de rééquilibrer une alimentation.
Je disais, hein, l'image qu'ont les Français, c'est que c'est des produits naturels, donc sans danger, ça on va y revenir. Mais ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas d'additifs dedans ?
Il peut y avoir des additifs, il peut y avoir des colorants, c'est pas tellement là-dessus qu'est le problème.
Non, mais c'est quand les Français disent c'est naturel, il y a alors, que de la vitamine ou des minéraux, il peut y avoir d'autres choses quand même.
Tout à fait, mais attention à ne pas se méprendre sur la dualité naturelle ou synthétique. Les poisons les plus violents sont parfaitement d'origine naturelle.
Bien sûr, mais souvent, dans l'esprit des Français, les plantes ne sont pas dangereuses. Ce ne sont pas des médicaments. Concrètement, ça change quoi ?
Alors, la première chose, c'est que comme ce ne sont pas des médicaments, ça ne s'adresse pas à des gens qui souffrent de quelque chose. Donc, c'est doit être consommé en dehors de tout contexte pathologique. Sinon, c'est un médicament par présentation ou par fonction. Et la deuxième chose, qui est la nuance très importante, c'est que contrairement aux médicaments, il n'y a aucune étude ni préclinique ni clinique avant leur mise sur le marché. C'est-à-dire qu'il suffit d'un simple enregistrement pour pouvoir commercialiser un complément alimentaire.
Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout contrôlés ?
Alors, ils sont contrôlés au regard de la réglementation, c'est-à-dire à la fois sur leur composition. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans un complément alimentaire. Et on ne peut pas alléguer sur des propriétés thérapeutiques.
On sait qu'aujourd'hui, les consommateurs se fournissent quand même pas mal sur Internet. Hein, c'est passé de 1% en 2015 à 11% aujourd'hui pour les compléments alimentaires, ce qui est quand même pas mal. Les produits vendus sur Internet sont aussi contrôlés ou il n'y a pas de contrôle pour le coup ?
Alors, le contrôle est à peu près de même nature. C'est-à-dire, c'est au regard de la législation sur le commerce à distance et sur le risque de tromperie du consommateur. Mais il n'y a pas, une fois de plus, de contrôle a priori ni de l'efficacité ni de la sécurité de ces produits.
Est-ce qu'on sait qui consomme ces produits aujourd'hui ? Il y a un profil ?
Alors, le profil dépend du type de complément alimentaire. Il y a des compléments alimentaires pour à peu près tous les âges, toutes les conditions, toutes les situations. Donc, on ne peut pas dire véritablement, donner un profil type du consommateur. C'est vrai que les femmes en consomment un peu plus que les hommes. Ça va toucher des milieux sociaux relativement favorisés, parce que ça représente un certain coût. C'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais effectivement, ça va du nourrisson jusqu'à la personne âgée.
Alors, les produits qui ont, on va dire, le plus le vent en poupe aujourd'hui sont les vitamines, les probiotiques, des extraits de plantes comme le ginseng, le magnésium, le collagène, l'acide hyaluronique. On va parler d'abord de l'efficacité de ces compléments. Et on va commencer par un complément, mais très très tendance, qui est le collagène, qui est souvent présenté comme une molécule miracle, hein, pour une peau lumineuse, des cheveux plus épais, des ongles renforcés, très vanté par les influenceurs sur les réseaux. Il faut dire que le collagène, c'est un constituant essentiel de la peau, des os, des tendons, et que ça maintient leur solidité. Est-ce que s'en appliquer sur la peau ou en ingérer, ça permet d'éviter les rides, ça permet d'assurer des os solides?
Alors, l'application cutanée, je ne sais pas, parce que ce n'est pas un sujet que je traite directement. En revanche, par voie orale, le collagène en tant que protéine va être dégradé en acides aminés au niveau du tube digestif. Donc, c'est une source d'acides aminés. Maintenant, est-ce que ces acides aminés vont être réutilisés par l'organisme au bon endroit pour resynthétiser une molécule de collagène là où il en manque? Ce n'est absolument pas démontré.
Ce n'est pas démontré, effectivement, il n'y a pas d'études scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a du coup pour ces compléments alimentaires? Une constatation, des déclarations? Comment on peut dire aux gens, oui d'accord, c'est parce qu'on parlera des dangers, mais oui effectivement on constate que c'est plutôt utile?
Alors avant toute chose, il faut considérer quelles sont les propriétés des molécules qui constituent le complément alimentaire. Il y a un registre européen des allégations de santé, qui compile l'ensemble des expertises menées par l'Autorité européenne des aliments, l'EFSA, et qui a attribué, qui a reconnu certaines vertus à un certain nombre de vitamines, de minéraux ou d'autres substances. Et donc, c'est consultable sur Internet. Donc, on peut d'ores et déjà constater qu'une substance peut avoir fait l'objet d'un examen. Cette expertise est à la fois rigoureuse et approfondie, et donc arriver à obtenir la réponse, est-ce que l'allégation est autorisée ou non ? Et c'est ainsi qu'il y a par exemple des allégations qu'on peut rencontrer sur le marché, comme l'ananas qui aurait des propriétés minceurs, et quand on va regarder...
Ça brûle les graisses.
Voilà, et bien absolument pas, ce n'est pas du tout démontré, donc il y a toute une liste d'allégations qui ne sont pas reconnues.
Autre complément très consommé en ce moment, évidemment, les vitamines. Il fait froid, l'ambiance est morose, on se dit qu'on va booster notre immunité avant l'hiver, qu'on va éviter comme ça les différents infections et les rhumes. Est-ce que prendre de la vitamine C, par exemple, un comprimé par jour, ça sert à quelque chose ?
Alors, la vitamine C bénéficie d'une allégation qui concerne le fonctionnement normal du système immunitaire, au même titre que la vitamine A, la vitamine B6, B12 et la vitamine D. Néanmoins, il y a une notion de dose. Quand on a une alimentation variée, équilibrée, et qu'on consomme tous les jours des fruits et des légumes, on va avoir un apport suffisant en vitamine C pour avoir un fonctionnement normal du système immunitaire. Maintenant, il faut mettre en garde les auditeurs contre la tentation de croire que plus, c'est mieux. Plus, c'est soit inefficace. Et là, dans le cas de la vitamine C, qui est une vitamine hydrosoluble, tout l'excédent va être éliminé par voie urinaire. Et dans certains cas, comme la vitamine A, c'est une molécule qui est liposoluble et donc qui va se stocker. Et là, il risque d'y avoir une bioaccumulation et on risque de dépasser le seuil de toxicité.
En gros, avoir mangé un kiwi ou une orange par jour, c'est bien pour avoir suffisamment d'immunité, en gros.
C'est suffisant.
Il y a une vitamine quand même qui se tire de ce lot, c'est la vitamine D, notamment quand on vit dans des pays comme le nôtre où on n'a pas l'exposition au soleil en permanence.
C'est vrai, la vitamine D est à la fois apportée par l'alimentation et synthétisée au niveau cutané, sous les radiations solaires. Donc effectivement, quand on vit dans une région peu ensoleillée ou même si on vit dans une région ensoleillée et qu'on a une activité qui est plutôt en intérieur, là, on risque d'être en déficit d'apport de vitamine D et ça présente effectivement un intérêt d'avoir...
Donc ça peut être intéressant. Juste commentaire sur deux autres compléments aujourd'hui très tendance, le zinc, le magnésium, très consommé, ça sert à quelque chose d'en apporter?
Alors, le zinc, présente aussi des allégations reconnues sur les, par exemple, la fonction cognitive, la peau, la vision, et également le système immunitaire. Et puis, le magnésium a aussi une allégation reconnue pour réduire la fatigue, et puis également son action sur le fonctionnement musculaire.
Et le magnésium, on le trouve dans le chocolat?
On peut le trouver aussi dans le chocolat.
Deux comprimés de chocolat noir, c'est bien, non?
Oui, alors attention.
Deux comprimés de carreaux, pardon.
Attention au cadmium et au nickel également présents dans le chocolat.
En gros, est-ce que ça veut dire que pour toutes ces nutriments et vitamines un peu de base, en gros, la population générale n'est pas carencée, donc n'a pas besoin d'être supplémentée?
Alors,
en dehors de la vitamine D.
En dehors de la vitamine D. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Nous sommes en train de mener actuellement des travaux pour évaluer ce qu'on appelle les prévalences d'inadéquation.
Oh là, faites-moi une traduction là.
Alors, c'est-à-dire quelle est la proportion de la population qui n'atteint pas la référence nutritionnelle. C'est-à-dire la référence nutritionnelle, c'est la quantité de nutriments dont on va avoir besoin pour être en bonne santé et avoir un fonctionnement physiologique adéquat. Donc, il se trouve qu'il y a une variété d'alimentation, de régime alimentaire, et donc la population, il va y avoir une distribution de ces apports. Certains vont largement atteindre ce seuil, voire le dépasser, et d'autres vont rester bien en deçà.
Comme les personnes âgées, par exemple?
Par exemple, tout dépend de leur régime alimentaire.
Les végétaliens, ils ont besoin d'une supplémentation?
Alors, les végétaliens ont plus particulièrement besoin d'une supplémentation en vitamine B12, puisque la vitamine B12 ne se trouve que dans les denrées d'origine animale. Et comme les végétaliens ne consomment aucune denrée d'origine animale, ni même lait, ni œufs, ils vont se retrouver en difficulté pour couvrir leurs besoins en vitamine B12.
Donc il y a des populations, on l'entend, plus fragiles, effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, quand on fait des analyses plus poussées à la recherche de carences, on en trouve quasi systématiquement. Je vais vous faire réagir à ça, mais d'abord on écoute le témoignage d'Amélie, qui est une jeune maman qui souffrait de déprime, de différentes douleurs, et qui témoigne, écoutez-la dans l'émission « Bienvenue chez vous, c'est sur ici Armorique ».
J'ai rencontré un micronutritionniste qui a fait un vrai bilan complet, qui a pris le temps d'écouter les choses, de faire des prises de sang, des analyses de sel, d'urine. Et là, le bilan était un peu catastrophique. J'avais un microbiote très, très pauvre.
D'accord.
Et ce qu'on appelle une porosité intestinale, que personne n'avait vu par des simples prises de sang, mais spécifiques, puisqu'en fait, j'allais de service en service. Une fois, c'était le rhumato, une fois, c'était les problèmes, on va dire, digestifs, où on m'a fait passer même des examens un peu invasifs. Enfin, voilà, on ne trouvait rien. En médecine conventionnelle, tout du moins. Et du jour où j'ai été prise en charge avec des compléments alimentaires, curcuma, de la glutamine, différentes choses que maintenant les gens qui ont des problèmes intestinaux connaissent, ça a changé ma vie en fait.
Alors ce type de témoignage, c'est vrai qu'on en entend beaucoup quand on fait faire ces analyses. Alors, précisons qu'en général, ces analyses sont faites en Belgique. Hein, je crois qu'il y a deux labos en France qui font ces analyses très poussées sur les carences. Des analyses non prises en charge, on le précise, par la Sécurité sociale. On trouve quasi systématiquement, effectivement, des carences, des micro-carences, et donc qui nécessitent la prise de compléments alimentaires. Ça veut dire quoi? Si on fait à tout le monde, on va trouver à tout le monde des carences et tout le monde va prendre des compléments?
Pas nécessairement. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de confronter son régime alimentaire avec les recommandations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, Il y a des repères qui invitent les gens à augmenter leur consommation de fruits et légumes, de consommer deux portions de poisson par semaine, dont un gras, d'avoir une portion de légumineuses. Bon, toute une série de recommandations. Et déjà, soi-même, on peut se confronter à ces recommandations. Ensuite, si véritablement on veut un diagnostic plus poussé, il faut consulter un diététicien qui va véritablement avoir, sur la base de relevés alimentaires, poser un diagnostic sur les éléments du régime qui nécessitent d'être corrigés, sans avoir à procéder à des dosages qui ne seraient pas forcément représentatifs d'une alimentation générale.
Bon, on a bien compris que dans certains cas, c'était utile, hein, vitamine D, vitamine B12. Pour tous les autres cas, enfin, dans certains cas, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Mais quand même, il y a des éventuels dangers, on va en parler. C'est quoi le danger déjà? Est-ce qu'il y a un risque de surdosage, de surconsommation? Et avec quel risque?
Alors, il y a toujours un risque de surdosage ou de surconsommation. Comme disait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Donc, on parlait tout à l'heure de la vitamine D. La vitamine D, la plupart des gens en manquent. Mais néanmoins, on a eu des cas d'hypercalcémie chez des nourrissons qui avaient reçu trop de vitamine D et avec des effets désastreux, puisque cette hypercalcémie, donc cette augmentation de calcium dans le sang, a entraîné une accumulation au niveau du rein, donc des néphrocalcinoses, des hospitalisations, et avec des nourrissons qui étaient dans un état critique. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous font penser que les compléments alimentaires peuvent aussi provoquer des problèmes de santé. Donc, si ça fait pas de bien, ça peut faire du mal.
Oui, mais si on prend des compléments alimentaires qui sont pas les mêmes, je veux dire, si on prend pas trois fois de la vitamine C, mais différents compléments, il peut quand même y avoir un risque de surdosage parce qu'on retrouve les mêmes éléments dans différents compléments alimentaires.
Alors, il peut y avoir effectivement une cumulation de nutriments apportés par différents compléments alimentaires, et puis il peut y avoir aussi un risque d'interaction. Soit entre eux, ou parce que, par exemple, le cuivre et le zinc vont être en concurrence au niveau de leur absorption. Et de la même façon, il peut y avoir des interactions avec un traitement médicamenteux pris par ailleurs.
C'est-à-dire, par exemple, quels traitements médicamenteux sont à vérifier?
Eh bien, récemment, on a rendu un avis sur la consommation de compléments alimentaires contenant de la réglisse. Et la réglisse a des interactions avec des médicaments qui sont hypokaliémiants.
Il faut baisser le taux de potassium dans le sang.
Exactement. De la même manière, le curcuma peut avoir des interactions avec des traitements anticoagulants et ainsi augmenter le risque hémorragique, également réduire l'efficacité de certains anticancéreux et même augmenter la biodisponibilité de certains antisuppresseurs. Donc, ça peut avoir des conséquences fâcheuses.
Quand on vous entend, on se dit qu'avant de prendre des compléments, il faut vraiment demander conseil à son médecin ou à son pharmacien.
Oui, c'est une sage précaution, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des produits qui sont anodins.
Quel est le risque particulier de l'achat sur Internet? Donc, je le disais, qui se développe, puisque c'est pratiquement 10% des compléments alimentaires qui sont achetés sur Internet aujourd'hui.
Alors, le risque qu'on va retrouver sur Internet, c'est essentiellement... déjà, on ne sait pas si on va être livré. On ne sait pas qui se cache derrière ces fabricants. Néanmoins, certaines enseignes peuvent être sérieuses. Mais le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de conseil associé. En deux clics, vous commandez votre produit et vous n'avez pas la possibilité de poser une question. Alors que si vous allez dans une pharmacie, vous allez pouvoir au moins vous adresser au pharmacien et lui poser quelques questions.
Vous avez mis en place à l'ANSES en 2019 un dispositif de nutri-vigilance pour surveiller justement les effets indésirables liés à la consommation de produits et notamment ces compléments alimentaires. Déjà, qui vous alerte et en cas d'alerte, vous faites quoi?
Alors, effectivement, c'est un dispositif qui est créé en 2009, qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et nous recevons des signalements à la fois des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, et également des consommateurs.
Beaucoup de signalements ou pas?
Alors, il y a beaucoup de signalements, mais bon, c'est à relativiser au regard de la pharmacovigilance qui a un nombre bien plus important de signalements. Nous avons à peu près 500 signalements par an. Parmi ceux-ci, beaucoup ne sont pas exploitables, mais certains nous attirent notre attention parce que, dans un premier temps, nous évaluons leur imputabilité, c'est-à-dire le lien de causalité entre la consommation du complément alimentaire et l'effet indésirable qui est déclaré. Nous évaluons également la sévérité de l'effet indésirable et à la conjonction de ces deux paramètres, nous décidons de lancer une expertise plus approfondie.
Alors, vous avez parlé de l'alerte que vous aviez faite, c'était en 2023, sur des surdosages chez des nourrissons liés à la vitamine D. Quel autre type d'alerte vous avez fait? Il y a des produits qui ont comme ça été mis sur le devant?
Oui, sur notre site, vous pouvez retrouver des avis concernant des produits qui ont une très forte imputabilité, une très forte sévérité. Et donc, c'est une façon de mettre en garde les consommateurs qui se retrouveraient un peu dans les mêmes circonstances de consommation. C'est ainsi que, pour reprendre le cas des nourrissons qui ont été surdosés en vitamine D, c'est une alerte pour les parents qui donnent des compléments alimentaires avec de la vitamine D. Et puis, nous avons eu aussi le cas d'une personne qui consommait un complément alimentaire qui contenait notamment une plante, Garcinia cambogia.
Les découpes fins essentiellement, c'est ça?
Alors oui, c'est plutôt considéré, sans véritablement connaître le mécanisme, mais pour à des fins d'amaigrissement. Et surtout, ce qu'on a pu constater, c'était qu'il y avait des cas d'hépatite fulminante avec la consommation de ce produit.
Donc une destruction du foie.
Exactement, qui nous a conduit à approfondir le dossier, à lancer une expertise et donc à mettre en garde contre la consommation de ces produits.
Il y avait aussi une certaine recommandation, enfin en tout cas une certaine méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les gummies, qui sont des gommes colorées qui ressemblent un peu à des bonbons, qui sont assez données aux enfants et qui peuvent ne pas du tout être anodins.
Oui, parce que du fait de la présentation, la forme galénique, on va dire, ces gommes vont être considérées par les enfants comme des bonbons. Et donc ils vont en prendre un, et puis un deuxième, et augmenter leur consommation. À côté de ça, il n'y a pas que des gummies pour les enfants, il y en a aussi pour les adultes, avec des dosages qui ne conviennent pas du tout aux enfants. Donc il y a des risques d'intoxication assez importants avec ce type de complément alimentaire.
Dans quelques secondes, vous nous donnerez des recommandations pour essayer d'être prudent si on veut prendre des compléments alimentaires. Mais pour l'instant, c'est la chronique d'Alexandra Delbo. Aujourd'hui, dans Science, on s'intéresse à une forme particulièrement agressive de cancer du sein qu'on appelle le cancer triple négatif. Une nouvelle étude a identifié un interrupteur moléculaire à l'origine de la résistance au traitement.
Carnet de santé.
Pourquoi certains cancers du sein dits triple négatif resurgissent-ils? 60 000 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein chaque année en France et il y en a plusieurs types. Des cancers qu'on dit hormonodépendants, c'est la forme la plus courante qui représente 70% des cas à la surface des cellules cancéreuses. Il y a là une surexpression de récepteurs aux œstrogènes et progestérone. Dans ce cas, on combine les traitements classiques à des thérapies ciblées pour reconnaître ces cellules cancéreuses et les attaquer précisément. Il y a aussi le cancer HER2 surexprimé. Ici, c'est une autre protéine à la surface, mais là encore, cette signature permet de les cibler. C'est environ 15% des cas, et pour les 15% restants, c'est un type de cancer particulièrement agressif pour lequel cette stratégie ciblée ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas différencier le cancer facilement des cellules normales, c'est le cancer dit triple négatif. Céline Vallot est directrice de recherche au CNRS et à l'Institut Curie.
Et on les appelle triple négatif puisqu'en fait, ils sont caractérisés par l'absence de marquage à certains récepteurs hormonaux, donc comme le récepteur aux œstrogènes, à la progestérone, mais aussi aux facteurs de croissance HER2. Et c'est la définition négative qui dit triple négatif, justement pour ce groupe. Donc c'est le cancer le plus agressif parmi les cancers du sein, qui arrive particulièrement chez la femme jeune, qui sont des cancers qui sont malheureusement uniquement traités par chimiothérapie ou immunothérapie, et pas des thérapies ciblées comme peuvent l'être les autres types de cancers. Qui cycle plus vite, c'est-à-dire que les cellules se divisent plus vite, il répond moins bien au traitement et il est plus agressif parce qu'en fait, il y a un fort taux de récurrence. C'est-à-dire que les patientes vont répondre au traitement initialement et dans 30% des cas, à 2 à 3 ans, elles vont avoir une récurrence, le cancer va revenir. Donc c'est ça qu'on appelle agressivité, c'est parce qu'il répond pas bien à long terme au traitement existant. Justement, vu que ces cancers du sein ont un fort taux de récurrence, ça veut dire que une partie des cellules ne répondent pas au traitement. Elles ne meurent pas après la chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle les cellules persistantes ou tolérantes au traitement. C'est justement ces cellules qui ne vont pas mourir après la première vague de traitement et qui vont alimenter la récurrence, elles qui vont fabriquer la nouvelle tumeur.
Et c'est à ces cellules persistantes qu'on veut s'attaquer. L'objectif est de comprendre si ce sont toujours les mêmes qui se rebellent, si n'importe quelle femme, avec ce cancer triple négatif, va développer les mêmes cellules persistantes. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à ces cellules résistantes au traitement? C'est ce qu'a voulu explorer cette nouvelle étude parue dans la revue Cancer Research. Et ces scientifiques ont créé pour cela des avatars de patientes en laboratoire. Cela consiste à prélever des biopsies de tumeurs chez des patientes, ici 8 femmes atteintes d'un cancer triple négatif résistant, et à greffer ces fragments tumoraux dans des souris. Ces animaux reçoivent ensuite les mêmes traitements que les patientes, ce qui permet de révéler les cellules persistantes. Puis, grâce à la transcriptomique, les scientifiques établissent leur carte d'identité. Résultat, il y a bien une signature semblable chez toutes ces femmes, et le point commun, c'est FOS-L1, un interrupteur moléculaire de la résistance au traitement.
Du coup, nous, ce qu'on a démontré, c'est qu'on a fait une preuve de concept que génétiquement, si on éteint, on manipule les cellules génétiquement et on éteint FOS-L1, elles sont plus capables de tolérer ce traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on allume cet interrupteur aussi tout de suite, avant même le traitement, toutes les cellules vont tolérer. Donc, c'est vraiment un interrupteur qui dicte la capacité des cellules à tolérer le traitement de chimiothérapie. Donc, en fait, ce qu'on a compris, c'est que ces cellules mettent en place un programme d'expression, une stratégie commune, et qui va être gouverné par plusieurs interrupteurs, dont FOS-L1. Mais il y a une série d'interrupteurs qui gouvernent l'inflammation et aussi le stress. FOS-L1 est un de ces interrupteurs, c'est-à-dire un facteur de transcription. C'est un gène qui est capable de contrôler l'expression d'une série de gènes en cascade. Et donc, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, c'est qu'on pense que c'est un talon d'Achille de ces cellules. C'est si on cible ces interrupteurs, et particulièrement cet interrupteur FOS-L1, on va pouvoir empêcher la mise en place de ce programme de tolérance et de persistance grâce à un seul gène.
La cible est là, maintenant il faut l'atteindre. Donc trouver des molécules capables d'éteindre spécifiquement cet interrupteur. Une collaboration est déjà en cours avec le Centre de recherche en cancérologie de Toulouse pour explorer cette piste. L'autre enjeu en ligne de mire, c'est que FOS-L1 puisse devenir un biomarqueur, qu'on puisse déterminer dès l'identification d'un cancer triple négatif s'il va être susceptible de résister au traitement. Et vous l'avez entendu, il s'agit de 8 femmes, 8 tumeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 8 expériences dans cette étude. Chaque biopsie a été découpée et testée plus de 50 fois dans différentes conditions expérimentales. Mais est-ce que ces 8 cancers représentent l'ensemble des cancers triple négatifs? C'est une question qui se pose. La prochaine étape, c'est d'avoir recours à des méthodologies moins lourdes et moins coûteuses en animaux de laboratoire, en utilisant de nouvelles technologies dites en cellules uniques pour étudier le profil cellulaire de davantage de tumeurs et donc atteindre un échantillon plus représentatif de patientes.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques d'Alexandra Delbo sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Est-ce qu'en une minute, on pourrait dire aux personnes qui veulent prendre des compléments alimentaires, même si c'est pas forcément efficace, quoi faire pour, en tout cas, ne pas se mettre en danger?
Alors, la première chose, c'est de s'interroger sur la pertinence de cette consommation. Est-ce qu'il y a véritablement un besoin? Si par exemple on est fatigué, il faut commencer par analyser le contexte. Est-ce que c'est une fatigue passagère? Est-ce que ça s'inscrit dans un contexte qui peut se traiter par du repos? Ou alors, est-ce que ça cache quelque chose de plus grave? Et là, il y a un risque de masquer des symptômes ou de retarder une prise en charge. Donc, éventuellement, commencer par en parler à un professionnel de santé. Ensuite, s'il s'avère qu'il s'agit d'un problème d'équilibre alimentaire, alors là, il faut s'adresser à un diététicien pour essayer de rééquilibrer l'alimentation. Et si le diététicien constate qu'il y a un besoin de consommer des compléments alimentaires, alors, dans ce cas, il faut recourir à des produits qui ont des ingrédients au bon dosage et surtout éviter les cocktails.
Bien. Et évidemment, on évite Internet et on demande conseil aux médecins et aux pharmaciens. Merci infiniment. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de l'émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisé et mise en onde.